BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils.
Bienvenue dans les entretiens HEC en collaboration avec Challenge, avec Bain et avec HEC, bien sûr, un entretien pendant une heure avec une personnalité qui représente soit le monde des affaires, soit le monde de la culture. Et en l'occurrence, c'est l'ancien ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon, qui est directeur de la Fondation Pinault, de la collection Pinault, qui est avec nous ce soir.
Merci Edwige. Cet entretien, je sais, vous connaissez désormais, qui est en fait une réalisation multicanale avec une rencontre dans le print de Challenge, sur les sites également de BFM Business et de Challenge, et puis en intégralité le week-end, le samedi à 20h, le dimanche à 13h30. Et nous recevons donc Jean-Jacques Ayagon. Merci d'être avec nous. Merci d'être enfin avec nous. Ce n'est pas en fait que vous étiez, vous aviez pas envie de venir, mais c'est qu'on attendait l'ouverture de cette fondation Pinault. C'est le 22 mai.
Jean-Jacques Ayagon, il y a quatre parties pendant cet entretien HEC. La première partie, bien sûr, c'est la partie d'actualité.
Et l'actualité, c'est donc effectivement l'ouverture de la Bourse du Commerce, le lieu parisien que François Pinault a voulu absolument pour ses expositions, qui jusqu'ici étaient présentées, on le sait, à Venise. Vous avez dirigé ce projet. Pourquoi Jean-Jacques Ayagon se retourne à Paris ?
Écoutez, tout d'abord, vous avez dit que nous présentions les œuvres de la collection Pinault jusqu'à présent à Venise. Elles continueront d'être présentées également à Venise. Donc, François Pinault a réalisé un véritable réseau européen de musées avec un pôle italien et un pôle français à la Bourse de Commerce. Il a souhaité également revenir à Paris, tout simplement parce qu'il est français, parce qu'il est parisien, parce que dès le moment de son départ à Venise, ou du choix qu'il avait fait de présenter sa collection à Venise, il avait annoncé que lorsque les circonstances le permettraient, il aurait à cœur de réaliser un musée à Paris pour partager sa collection dans cette ville avec le public.
Et il a fallu attendre 15 ans.
Jean-Jacques Ayagon, oui, on va rappeler quand même qu'il y avait le grand loupé. Évidemment, il y avait la fondation qui normalement devait être à Boulogne. On s'en souvient, ça n'avait pas fonctionné. Donc, il est parti à Venise. Vous êtes parti à Venise. Et donc là, c'est le grand retour à Paris. Quel an ? On est quand même sur BFM Business, sur Challenge, avec HEC. Quel est l'engagement financier ? Quel est le coût de cette incroyable restauration ?
Ah bah écoutez, il est significatif. L'ensemble des budgets affectés à la réalisation des travaux de restauration du bâtiment, parce qu'il s'agit d'un monument historique, et d'aménagement du bâtiment s'élève à 160 millions, dans lesquels sont compris également les dépenses liées à la création de mobilier urbain pour les abords de la Bourse de Commerce. À cela s'ajouteront pendant 50 ans, puisque la concession consentie par la ville de Paris s'étend sur 50 années, pendant 50 ans, la prise en charge totale, naturellement, du fonctionnement de cette institution, la production des expositions, la production de l'activité publique, l'accueil du public. Vous le voyez, c'est un engagement extrêmement solide, extrêmement significatif.
Plus de 10 000 œuvres signées de 350 artistes, c'est-à-dire c'est gigantesque. Qui paye ? C'est Kering, c'est le groupe Pinault, enfin le groupe Kering, ou c'est François Pinault ?
Non, il ne s'agit pas du tout d'une affaire corporate. Hein. Ce n'est pas le groupe Kering qui est engagé dans cette affaire. C'est la famille Pinault, à travers son holding familial, financière Pinault, qui est l'unique soutien financier de la structure que nous avons appelée Collection Pinault, qui gère les musées à Venise, qui gère le musée à Paris et qui s'attache à développer la collection.
Alors, dans la magnifique présentation, la brochure que vous avez faite sur le Bourse du Commerce, vous écrivez « Ce chantier n'a pas été un long fleuve tranquille ». Et pourtant, on a l'impression que c'est moins compliqué. Vous disiez effectivement que c'était une restauration, que par exemple, architecturalement parlant, un nouvel bâtiment comme ce qu'a été la Fondation Vuitton. Est-ce que finalement, ça a été si compliqué comme vous le dites ?
Écoutez, ça a été compliqué comme tout chantier est compliqué, surtout quand ce chantier se déroule dans un monument historique. Dans un monument historique qu'on connaissait mal, puisque jusqu'à la veille de la prise en charge du bâtiment par la collection Pinault, il était encore occupé par les services de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et d'Île-de-France. Donc ce bâtiment, on l'ignorait. On ignorait par exemple ses fragilités structurelles. On s'est rendu compte en prenant en charge ce bâtiment que la portance des planchers était extrêmement faible. Donc il a fallu partout de façon à ce qu'on puisse présenter des œuvres éventuellement de points importants, renforcer les planchers. On s'est rendu compte, en creusant un deuxième sous-sol, de façon à créer des équipements techniques, qu'il y avait des poches de pollution très anciennes. Et donc il a fallu engager un chantier de dépollution. Tout bâtiment de ce type, tout bâtiment historique, réserve des surprises, mais c'est le lot de tout chantier.
Et donc François Pinault a demandé à un de ses architectes favoris, Taddeo Ando, je crois que c'est lui qui avait effectivement fait aussi le travail de restauration à Venise, de prendre en charge ce chantier-là. Quelle a été sa ligne directrice à Taddeo Ando ?
Écoutez, tout d'abord, François Pinault a tenu à organiser une maîtrise d'œuvre extrêmement solide, extrêmement avec des talents, des compétences complémentaires. Un grand architecte international, étranger, japonais, Tada Ando, une équipe de jeunes architectes parisiens, l'agence NEM, Lucie Ninet, Thibaut Marca, un architecte en chef des monuments historiques, Pierre-Antoine Gatier. Et ces trois pôles de compétences ont réellement travaillé ensemble. L'objectif que François Pinault leur a fixé, c'était d'une part de restaurer le bâtiment historique de façon très scrupuleuse, parce qu'il est très attaché au respect qu'on doit aux monuments historiques, tout y introduisant un acte d'architecture contemporain totalement compatible avec ce bâtiment. Le travail a été tellement complémentaire et bien fait qu'il a recueilli l'approbation de la Commission nationale des monuments historiques et de la Commission du Vieux Paris, dont on sait pourtant à quel point elle est attentive à tout ce qui pourrait altérer les monuments de la capitale.
Le geste architectural que vous évoquez, c'est ce fameux cylindre là qu'on a vu derrière vous pendant que vous détaillez effectivement l'équipe.
Alors, il s'agit en effet d'un cylindre de béton qui traverse le bâtiment du deuxième étage jusqu'au sous-sol, qui décrit au milieu de son espace un espace destiné aux expositions, et au sous-sol, au niveau -2, permet l'installation d'un auditorium de belle ampleur et de grande qualité, notamment acoustique. Donc cet objet, comme vous dites, ce geste architectural n'est pas juste un geste gesticulatoire. Il ne s'agit pas de démontrer l'architecture d'aujourd'hui, mais de produire de l'architecture d'aujourd'hui afin qu'elle soit destinée à un usage et qu'elle mette en valeur également le bâtiment historique.
Alors l'exposition inaugurale s'appelle Ouverture. Alors certains,
ouverture,
notamment
Ouverture avec un S.
Avec un S, évidemment. Alain Main, qui connaît bien François Pinault, a dit que c'était presque un manifeste politique, une exposition d'anarchiste. Est-ce que vous partagez ce sentiment et qu'est-ce qu'on va voir ?
Écoutez, je n'irai pas jusqu'à l'anarchie, mais c'est en effet un véritable manifeste. François Pinault a souhaité que l'accrochage d'ouverture aille où on ne l'attendait pas. On s'attendait, peut-être spontanément, qu'il présente les grandes stars de sa collection, les Jeff Koons, les Murakami. Il n'a pas fait ce choix-là. Il a fait le choix de présenter ou de sélectionner des artistes plus secrets qui tous s'attachent à représenter la figure humaine, le visage, le regard des femmes et des hommes d'aujourd'hui, également d'évoquer leur combat, le combat pour la liberté, pour la dignité, pour la réalisation totalement autonome de l'existence de chacun.
Alors l'ouverture de ce magnifique bâtiment, c'est le 22 mai, la date est formidable, 3 jours après la réouverture des musées. Vous êtes un ancien ministre de la Culture, est-ce qu'effectivement il était urgent de rouvrir tous ces bâtiments pour que l'art soit de nouveau disponible ?
Écoutez, de façon générale, je crois qu'on ne peut pas indéfiniment confiner une société. Ça produit des troubles trop importants, ça brise la vie de beaucoup de gens, ça altère la relation des uns avec les autres. Donc on ne peut pas confiner à perte de vue, même au nom de considérations sanitaires. Il est évident que ces considérations sanitaires, naturellement, ne sont pas négligeables, mais il faut également rendre un peu de fluidité à la société.
Jean-Jacques Ayagon, dans quel état se trouve la culture, le monde de la culture, après ces 15 mois de fermeture considérée comme non essentielle ?
Écoutez, je crois que le monde de la culture a subi de très très lourds dommages. Grâce au ciel, les mesures prises par le gouvernement ont permis de cantonner une partie des effets de cet empêchement de travailler normalement.
Il y a un avant et un après, vous pensez ?
Il y a incontestablement un avant et un après, surtout dans la tête des gens. Je crois que nous ne regarderons plus le monde, nous ne regarderons plus la société, nous ne regarderons plus les autres, nous ne regarderons plus même nous-mêmes de la même façon. Je crois que ça nous a finalement restitué le sens de la gravité des choses. Nous avons réappris, comme le disait Paul Valéry, que les civilisations étaient mortelles et que même nos mondes, qui semblaient tout puissants, et en entraîner vers une sorte de développement indéfini ou infini, plus exactement, pouvait être atteint, y compris par quelque chose d'aussi minuscule qu'un virus.
Alors Jean-Jacques Ayagon, petite question qui n'est pas un détail, compte tenu de la position de François Pinault parmi les tout premiers collectionneurs du monde. Est-ce que François Pinault a continué à acheter pendant cette période ?
Écoutez, je vous ferai la confidence que pendant quelques mois, il a cessé d'acheter parce qu'il avait, comme nous tous, la tête ailleurs. Et puis très rapide, tout d'abord parce qu'il a cessé de rencontrer des artistes, il a cessé de voyager, il a cessé. Les foires ne se sont pas tenues, les grands rendez-vous internationaux du monde de l'art n'ont pas eu lieu. Mais très rapidement, il a finalement appris à s'intéresser aux œuvres d'artistes qu'il aime ou qui l'intéressent de façon différente. Et en effet, la collection a repris son rythme habituel.
Jean-Jacques Ayagon, on va marquer une toute petite pause et on se retrouve juste après parce que c'est le brief de Bain avec Laurent Colombani, associé de chez Bain et compagnie, qui va nous présenter un peu votre stratégie, la stratégie en matière d'art.
Alors Laurent Colombani, vous êtes associé chez Bain, ça doit être assez passionnant de présenter un brief justement sur un marché inhabituel, vous qui êtes habitué à parler des objets de grande consommation. Comment vous allez nous présenter cela ?
Merci Vincent et bonjour Monsieur Ayagon. Effectivement, c'est un plaisir de parler du marché de l'art. Alors, il est loin le temps où François Pinault a acheté ses premières œuvres. On parle d'un Paul Sérusier en 1972, où, selon la légende, faisait le siège de la foire de Bâle pour y rentrer le premier et repérer les bonnes affaires. Aujourd'hui, Pinault Collection, que vous dirigez, c'est des milliers d'œuvres, un patrimoine estimé par le magazine Challenge à près d'1,5 milliard d'euros. Et une société qui évolue sur un marché mondial de l'art estimé à près de 64 milliards de dollars en 2019. C'est un marché en bonne santé. En particulier, l'art contemporain, depuis le début des années 2000, observe des croissances soutenues. Et Pinault Collection évolue sur l'ensemble de la chaîne de valeur de ce marché, depuis le parrainage et le soutien aux artistes, avec notamment une résidence près de Lens pour les accueillir, mais surtout le financement d'expositions pour permettre de les découvrir. Sur le négoce, évidemment, où la société est à la fois active à l'achat et à la vente, de gré à gré, et également sur les salles de vente depuis l'acquisition de Christie's en 1998. Et enfin, évidemment, l'activité peut-être la plus visible du grand public, l'exposition avec les musées vénitiens et, on l'a dit, ce grand musée parisien qui va bientôt ouvrir. Alors, quelle perspective pour la société Pinault Collection aujourd'hui ? De l'ambition, bien sûr, des challenges et puis de l'innovation aussi. L'ambition avec ce grand musée parisien qui vise à accueillir près d'1 million de personnes par an et 10 collections chaque année. Les challenges, on en a parlé de la pandémie qui a mis à mal l'ensemble du secteur, qui, malgré les signes prometteurs de réouverture, continue de mettre le tourisme international à bas. Et on sait qu'il est très important pour les grandes institutions culturelles, qu'elles soient à Venise ou à Paris. Et de l'innovation, enfin, comment ne pas citer cette spectaculaire vente qu'a fait Christie's sur le marché du digital avec cette œuvre de l'artiste américain Beeple, vendue pour près de 70 millions de dollars cette année. Œuvre dont ce n'est pas tant le montant de la transaction finalement qui impressionne que le fait qu'elle soit totalement virtuelle et dont l'authenticité est garantie par la blockchain. Donc peut-être, pour terminer cette rapide introduction, une première question pour vous. On voit la société Pinault Collection à la fois ouvrir un emblématique lieu physique pour exposer et vivre la culture et en même temps être à la pointe du négoce de l'art digital. Comment voyez-vous un peu l'équilibre entre ces deux activités pour le marché, pour la place de Paris et évidemment pour Pinault Collection ?
Merci Laurent Colombani. Une réaction peut-être, Jean-Jacques ?
Non, je voudrais simplement très rapidement dire que si Christie's et Pinault Collection appartiennent au même groupe et à la même famille, néanmoins leurs activités sont totalement distinctes. Moi, le seul lien qui me relie à Christie's, c'est le fait que le directeur général de Christie's Monde soit Guillaume Cerutti, qui a été mon directeur de cabinet au ministère de la Culture. C'est donc une relation d'amitié. Sinon, Christie's n'intervient pas dans les affaires de Pinault Collection et Pinault Collection n'intervient pas dans les affaires de Christie's. François Pinault est très, très attaché à cette séparation des choses, de même qu'il est très attaché à la séparation entre les activités de Pinault Collection et les activités des autres marques du groupe, notamment des marques dans le domaine du luxe. Vous l'avez remarqué, aucun des musées de la collection Pinault ne porte le nom d'une marque. À Venise, les musées ne s'appellent pas les musées Bottega Veneta ou Gucci. À Paris, la Bourse de commerce ne porte pas le nom de musée Saint-Laurent, éventuellement. Donc François Pinault a finalement est bicéphale. Il a d'un côté ses affaires, son business, ses affaires qu'il a d'ailleurs confiées à son fils François-Henri Pinault, il n'est plus lui-même acteur de ses affaires, et d'autre part, les affaires de l'art, les affaires de la collection, qui sont totalement sa passion.
Et on va quand même essayer de réconcilier les deux en parlant de la séquence business, où on a quand même des questions à vous poser sur le business de l'art, parce que lorsqu'on voit les chiffres, c'est vrai qu'il y a un côté un peu affolant. Jean-Jacques Ayagon, la Bourse du commerce est un projet de Pinault Collection. Est-ce que ce n'est que de la philanthropie? Est-ce que quand même il n'y a pas derrière, lorsqu'on voit le montant des œuvres, on a vu qu'il a très bien acheté. En plus, quand François Pinault achète une œuvre, on sait que tout de suite, elle a une plus-value immédiate colossale. Il y a quand même un business de l'art, non?
De toute évidence, il y a un marché de l'art et ce n'est pas une réalité contemporaine. Au XVIIe siècle, quand les princes disputaient Rubens et Van Dyck, ils faisaient de ces peintres des stars absolues d'un marché considérable. Au XIXe siècle, certains artistes ont atteint des prix exorbitants. Et donc aujourd'hui, il y a toujours un marché de l'art. La simple différence avec ce qui pouvait se passer hier ou avant-hier, c'est que ce marché est désormais un marché mondialisé. Pendant longtemps, le marché de l'art s'est déroulé entre l'Europe de l'Ouest et l'Amérique de l'Est, la côte Est des États-Unis. Aujourd'hui, ce marché est un marché mondial.
Donc, ce n'est pas que des philanthropies.
Mais pardonnez-nous quand même d'insister là-dessus. On a eu le sentiment, pas simplement dans Challenge et sur le plateau de BFM Business, que Pinault Collection avait aussi un objectif qui était de gagner de l'argent pour les frais de fonctionnement de Venise, par exemple, qui sont de plus de 20 millions d'euros. Vous ne nous avez pas dit tout à l'heure ce qu'étaient les frais de fonctionnement de la Bourse du Commerce, mais j'imagine que ça pourrait également être dans une de ses vocations.
Non, écoutez, il faut bien distinguer les choses. Ce n'est pas la destination, ce n'est pas le but de Pinault Collection que de gagner de l'argent. François Pinault gagnera beaucoup plus d'argent dans ses autres affaires que dans cette affaire-là, qui est une affaire coûteuse. On n'a jamais vu personne gagner de l'argent en ouvrant un musée d'art contemporain. C'est un exercice totalement impossible. Que la collection achète et qu'elle vende, c'est une autre chose. Pourquoi une collection privée se soumettrait-elle à la règle de l'inaliénabilité des collections publiques? Il n'y a aucune raison. De surcroît, la disproportion entre le nombre d'achats et le nombre de ventes au sein de Pinault Collection est considérable. En 20 ans, depuis 2000, François Pinault a acheté quelque 10 000 œuvres. Il en a vendu 200. Donc on voit bien que notre activité n'est pas une activité qui vise à la commercialisation des œuvres que nous rassemblons. Mais à chaque fois que François Pinault estime qu'une œuvre n'a plus sa place dans sa collection ou que la collection doit être réorientée, il accepte en effet que cette œuvre soit aliénée, qu'elle soit vendue, de façon d'ailleurs à ce que le bénéfice qu'on en retire soit réinvesti, réinjecté dans d'autres activités, dans d'autres acquisitions et éventuellement également dans le financement du fonctionnement.
Il y a quand même effectivement l'idée de couvrir les frais de fonctionnement des trois maisons maintenant, les deux à Venise.
Mais ce n'est pas l'objectif. On ne se dit pas nous avons une collection, nous allons suffisamment bien la gérer de façon à ce que les musées ne nous coûtent rien. Tous les ans, la famille Pinault, donc François Pinault, ses enfants, réinjectent de l'argent dans l'outil qui est Pinault Collection, de façon à ce que les musées de Venise et le musée de Paris désormais puissent fonctionner de la façon la plus satisfaisante.
Comme le disait tout à l'heure Laurent Colombalie de Bain, François Pinault, il est présent à tous les étages, les étapes du marché de l'art, qu'il s'agit des collectionneurs, il est propriétaire de Christie's, il est vendeur d'œuvres d'art, il est quasiment galériste, hein, même si c'est des énormes galeries. Il n'y a aucun conflit d'intérêt.
Ah non, je ne vois pas où serait le conflit d'intérêts. Il y aurait conflit d'intérêts éventuellement si François Pinault était une institution publique, mais il n'est pas une institution publique. En refusant, par exemple, de donner la forme de fondation d'entreprise à son activité muséale, il a refusé dans le même temps que le nom des marques du groupe soit associé à l'activité de ses musées. Mmh. Il a renoncé à bénéficier des dispositions de la loi du 1er août 2003 que certains appellent la loi Aillagon sur le mécénat qui permet de bénéficier d'une réduction d'impôt de 60%.
Vous inquiétez pas, hein, tout à l'heure, il y aura des questions dessus.
Et donc, je crois que, bon, le choix qu'il a fait, d'abord, chez lui, il y a une passion. La passion de faire une collection. Il aime les œuvres, il aime les artistes. Il gère sa collection avec beaucoup de prudence. Il acquiert, il lui arrive de vendre, il ouvre des musées. Chaque année, il fait un énorme effort de façon à ce que ces musées fonctionnent bien. C'est bon pour Venise, c'est bon pour Paris, c'est bon pour la France. L'essentiel, c'est la satisfaction du public, c'est que le public puisse le plus largement possible accéder à des expositions et à des œuvres.
Juste, Vincent, une petite question parce qu'on ne l'a pas encore posée. Qu'est-ce qu'il y a dans cette ouverture avec un S? Qu'est-ce qu'il y a comme magnifique œuvre à ne pas manquer pour ceux qui vont aller se promener dans ce cône circulaire incroyable?
Écoutez, il y a beaucoup d'œuvres très impressionnantes.
Il y a un événement dans l'événement avec l'exposition David Amons, oui.
D'abord, il y a un ensemble d'œuvres de David Amons. Hein. Je crois que François Pinault est le seul collectionneur au monde qui puisse réunir un tel ensemble d'œuvres de cet artiste américain. Majeur, artiste noir américain majeur, qui constitue pour toute la scène américaine une référence absolue. Mais je crois que l'une des œuvres les plus impressionnantes, c'est celle qui accueillera le visiteur à l'entrée de la Bourse de commerce, dans l'espace central, dans le cylindre de Tada Ando. Cette œuvre, c'est une œuvre d'un artiste suisse qui s'appelle Urs Fischer. Et il s'agit d'une reproduction en cire de l'enlèvement des Sabines de Jean de Bologne, de la loge des Lanzi à Venise. Sauf que cette reproduction, elle est en cire. Et que le jour de l'ouverture au public, il sera mis feu à cette énorme bougie hein, qui va donc se consumer, comme pour nous inviter à réfléchir aussi à la fragilité des choses et même parfois à la vanité des choses. C'est les grands artistes des 16e, 17e siècle ont souvent, en peignant des natures mortes, représenté des crânes et des éléments de décor ou des éléments de la nature qui, se décomposant, nous rappellent la fin dernière des choses. Cette œuvre est également une immense vanité et je pense que le public va être très impressionné par sa présence.
À condition d'y aller pas trop tard, puisqu'elle se consomme, elle se consomme aussi tout au long de la durée de l'exposition. Et justement, par rapport à ce que vous allez présenter à Paris, est-ce qu'il est la quinzaine d'expositions qu'il y a eu déjà à Venise, est-ce qu'en fait il y a une approche assez différente dans la manière de concevoir une expo dans une grande capitale et dans un lieu aussi magique que Venise?
Écoutez, par la force des choses, il y a une différence parce que la situation de Venise et la situation de Paris sont très différentes. À Paris, Venise, c'est devenu une petite ville. Hein. Dans la lagune ne vivent qu'une soixantaine de milliers de personnes aujourd'hui. Mais cette petite ville devient à certains moments de l'année la capitale du monde. Quand s'y tiennent la Biennale d'art ou la Biennale d'architecture, le monde entier se retrouve à Venise. Donc la programmation de Palazzo Grassi et de la Pointe de la Douane sont des programmations très saisonnières, très événementielles, qui s'appuient totalement sur la force de ces grands événements internationaux. À Paris, en revanche, l'offre culturelle, elle est immense, et donc il faut non pas rivaliser, mais il faut tenir compte de la force de cette offre culturelle et s'inscrire dans cette logique-là. Donc une programmation plus intense, une programmation également plus rythmée, de façon à ce que sans cesse l'intérêt du public pour la Bourse de commerce se renouvelle.
Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que François Pinault est plus galeriste à Venise et plus collectionneur à Paris?
Non, j'ai lu ça quelque part, en effet, c'est d'une totale malveillance. Il programme avec le même équilibre, la même équité, la même passion, le même amour de l'art à Venise qu'à Paris. Actuellement, dans quelques jours, nous allons ouvrir à Venise une grande exposition Bruce Nauman, un des plus grands artistes américains de notre temps. Croyez-moi, dans cette exposition, il n'y a rien à acheter, il n'y a rien à vendre.
Quelle différence, je continue sur la question de Vincent, quelle différence y a-t-il entre les approches artistiques de la Fondation Vuitton de Bernard Arnault et votre collection de François Pinault? Est-ce qu'il y a une approche différente?
Oui, incontestablement. Tout d'abord, Bernard Arnault a également engagé la constitution d'une collection. Et d'ailleurs, souvent, on peut remarquer que des artistes qui sont dans la collection de l'un sont également dans la collection de
c'est
l'autre.
C'est possible d'avoir
oui,
deux
sûr,
frères
bien
ennemis.
Sûr,
oui.
Bien sûr. D'abord, je crois que ces deux hommes ne sont pas des frères ennemis. Ils ont été concurrents, parfois très, très vigoureusement, mais ils se connaissent et je crois qu'ils se respectent mutuellement. Et c'est très bien comme ça. Donc, ils ont fait des collections. Celle de François Pinault, de toute évidence, est plus importante. Elle est plus ancienne, elle est plus importante. Mais ce que je connais de la collection de Bernard Arnault me donne à penser qu'il y a également beaucoup de choses très, très intéressantes dans cette collection. Mais surtout, Bernard Arnault a fait le choix de programmer sur le grand créneau de l'art historique du XXe siècle. Il l'a montré au cours des dernières années avec quelques expositions qui ont connu d'ailleurs des succès considérables. C'est un terrain sur lequel François Pinault n'a pas souhaité s'engager, estimant que Bernard Arnault y était déjà, estimant que le Centre Pompidou et le Musée d'Art Moderne et la Réunion des Musées Nationaux y étaient déjà. Donc il a préféré s'engager sur le terrain plus difficile, il en est bien conscient, de l'art d'aujourd'hui, de l'art contemporain.
Il reste que 10 000 œuvres achetées, c'est le chiffre est vraiment fascinant. Et comme effectivement il veut que ce soit la collection d'une vie, est-ce qu'il se pose la question de savoir comment son fils, qui a hérité avec ses frères et sœurs de ce qu'est l'entreprise Kering, est-ce que son fils va partager cette même passion pour l'art contemporain ?
Écoutez, il a naturellement le souci que ça continue après lui. Bon, je lui souhaite de vivre très très longtemps et de conduire cette affaire le plus longtemps possible. Mais j'ai noté avec beaucoup d'émotion et également d'attention qu'au moment où il a pris la décision de s'engager dans la bourse de commerce, il a bien pris soin d'associer à sa décision son fils et ses petits-enfants, parce qu'il souhaite en effet...
Et pas sa fille, pas ses filles.
Ben ça, pardonnez-moi. J'ai dit ses enfants, donc ses enfants sont ses fils, sa fille, voilà. Ses petits-enfants, de façon générique, où il y a des petits-fils et des petites-filles. Donc il a souhaité les associer à cette grande aventure de façon à ce qu'elle dure au-delà de lui. Alors ensuite, la passion, ce n'est pas transmissible par héritage. Ouais. Pour ma part, j'espère que sa descendance éprouvera, le moment venu, le même enthousiasme, la même passion que ceux qui l'ont éprouvé.
Mais François-Henri Pinault est président du conseil d'administration.
François-Henri Pinault est en effet président du conseil d'administration de Pinault Collection. Et allez, croyez-moi, il est très attentif à ce que nous faisons. Il est très attentif également à laisser à son père, qu'il respecte beaucoup, toute l'étendue de sa responsabilité à l'égard des affaires artistiques de la maison.
Allez Vincent, allez Jean-Jacques Ayagon, on va marquer une pause. On se retrouve juste après pour la deuxième partie, micro-trottoir, question très intéressante, vous le verrez les alumni. Et puis bien sûr après la conclusion avec des questions un petit peu plus personnelles.
L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils.
Retour sur le plateau donc de l'entretien HEC avec l'immense chance d'avoir Jean-Jacques Ayagon au moment où la Fondation Pinault ouvre sa bourse du commerce à Paris. Et nous allons introduire cette deuxième partie avec quelque chose d'inhabituel, en fait un micro-trottoir sur l'art. C'est généralement pas sur ces sujets-là qu'on tend le micro et on ne le tend pas non plus sur le campus d'HEC. Écoutez Jean-Jacques Ayagon.
En temps normal, tu vas souvent au musée ou pas trop ?
J'essaye le plus souvent possible, évidemment.
Oui, régulièrement, une petite fois par mois.
Oui, en temps normal, je vais au musée à Paris.
Aujourd'hui, tu irais plutôt vers des musées d'art classique ou des musées d'art contemporain ?
En général, c'est plutôt de l'art contemporain.
Un peu des deux, je dirais, mais j'apprécie un peu plus l'art contemporain.
Est-ce que, si je te demande de me dire un nom d'artiste, qu'est-ce qui te vient à l'esprit ?
Alors, c'est contemporain, mais il y a 20 ans, je dirais Basquiat. Ça reste un de mes artistes contemporains préférés. Ouais.
Je viens du Mexique et nous avons une belle génération de nouveaux artistes. Je pense par exemple à Gonzalo Lebrija, Maria Estrada. Ils s'inspirent beaucoup de la nature, de personnages. J'aime beaucoup leurs œuvres.
Je pense à Delaunay.
Je dirais en premier lieu Koons.
Jeff Koons, c'est très marrant, c'est très divertissant. Là maintenant que je suis plus adulte, ça me touche plus en fait. Ça fait très objet de décoration. Et c'est juste que c'est de l'art parce que ça se vend à des millions et moi, ça m'intéresse pas.
Qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette forme d'art ?
Pour moi, le contemporain, c'est un peu tout, justement. C'est une forme un peu libérée, accentuée de toutes les manières de s'exprimer. Et donc, il n'y a pas de règle, au contraire.
Il y a quand même un petit problème d'accès. Je pense que tout le monde n'arrive pas à s'identifier à ce qui est produit dans l'art contemporain.
Parce que pour pouvoir se poser ces questions, pour faire toute cette démarche réflexive, etc., il faut de base une certaine culture. Il faut en avoir, je pense, discuté dans un cadre familial ou peut-être scolaire. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Alors que la technique et par exemple l'art figuratif, la technique, tout le monde la comprend et tout le monde la constate plus facilement.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon toi, pour que les musées et les lieux d'exposition d'art en général attirent plus d'étudiants d'HEC ou de gens comme toi ?
En vrai, je pense que je miserais principalement sur le tarif.
Peut-être déjà les tarifs préférentiels.
Je pense qu'il y a un rôle d'abord à jouer dans le digital. Étant donné que c'est qu'aujourd'hui tout se passe par là, j'ai l'impression, tout ce qui est les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, etc.
Perhaps I would make art a lot more accessible.
Je rendrai l'art plus accessible à Paris, c'est dur à suivre, parce qu'il y a tellement de musées différents, et vu de l'extérieur, on ne sait jamais à quoi s'attendre à l'intérieur.
Je pense que les musées et les expositions ne devraient pas être dans un seul endroit. Il faudrait en mettre partout, dans les espaces publics, les parcs, les rues.
Les musées, essentiels ou pas essentiels ?
Complètement essentiel.
Oui, je pense que c'est essentiel et on s'en rend particulièrement compte dans le contexte actuel. C'est vraiment ce qui peut animer la vie d'une ville, qui fait son identité.
Pour moi, un musée, c'était essentiel. Et même à tout âge, se confronter vraiment aux œuvres directement et pas les voir, par exemple, sur Internet ou sur un autre support, je pense que c'est quand même très important. Et souvent, quand on est face à une œuvre, on voit les choses différemment. On voit des détails, on est plus sensible à l'atmosphère ou bien même à la manière dont l'œuvre est présentée. Le contexte est vraiment important pour moi, je trouve.
De manière générale, ça t'intéresserait de bosser pour une institution comme les collections Pinault ?
Oui, parce que je pense que c'est très intéressant cette idée de collection, mais avec un sens, avec un but, j'aime bien.
Et je pense que toute expérience est quand même bonne à prendre. Et puis si ça peut m'enrichir sur un point de vue personnel, je suis tout à fait ouverte à ça.
Si tu avais un message à donner au directeur général des collections Pinault, qu'est-ce que tu lui dirais ?
Que mon CV est disponible et que je suis trouvable sur LinkedIn, contactez-moi.
Donc un micro-trottoir réalisé par Arthur Imovici que je salue. Et puis derrière la caméra, Clémentine Impériale-Legrand. Vous avez entendu le CV. Ça vous fait plaisir quand même de voir des jeunes d'HEC qui vous disent « Tiens, je veux bien les bosser pour vous ».
Écoutez, c'est formidable. Ce micro-trottoir est très très encourageant. Il confirme que les jeunes ont la passion de l'art, ouais, de façon générale.
Le musée est essentiel, vous avez entendu plusieurs
essentiel.
Fois.
Hein, vous savez à quel point on a disserté cette année sur la question de savoir ce qui était essentiel et ce qui ne l'était pas. Il n'éprouve pas de répulsion pour l'art contemporain. Certes, parfois, on essaie d'accréditer l'idée que l'art ancien rassurait, que l'art contemporain serait un répulsif. Ces jeunes nous indiquent le contraire. Également, leur réflexion sur l'économie de l'art m'amène à leur dire que l'art, finalement, est la seule marchandise, parce que c'est également une marchandise, ça se trouve sur un marché, où la valeur, ce n'est pas uniquement le prix, où la valeur est quelque chose de distinct du prix. Une œuvre peut être très chère et finalement n'avoir pas beaucoup de valeur, et au contraire, une œuvre très modeste peut, à la longue, acquérir une valeur culturelle considérable. L'un de ses étudiants nous a parlé de Jeff Koons. Je vous signale qu'actuellement, la collection Pinault, qui est présente dans ses murs à Paris et à Venise, est également présente dans beaucoup d'institutions en France et à l'étranger. Elle a prêté un très grand nombre d'œuvres de Koons à Marseille, au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, pour une exposition sur Koons et les arts populaires. Elle est présente à la Bibliothèque nationale de France, au Palais de Tokyo et bientôt à Rennes.
Enfin, il vous a dit quand même que ce n'était pas des œuvres pour adultes, hein ? Le jeune étudiant.
Écoutez, chacun.
C'est un éternel adolescent, Jean-Jacques Ayagon.
Chacun d'entre nous a le droit d'avoir sur les œuvres le jugement critique qui lui semblera le plus pertinent. L'essentiel, c'est de ne pas avoir de préjugés et de s'ouvrir aux choses de notre temps telles qu'elles se présentent.
Eh bien, parfait, vous faites la transition parce que désormais, c'est la dernière partie avec les questions posées par des alumni d'HEC. C'est face à HEC. Donc des questions qui ont été posées par des alumni d'HEC, je le disais. 9 questions, la première, et puis à chaque fois vous allez répondre. Vous allez voir, il y a des personnalités du monde de l'art aussi. Ben, notamment la première question qui est posée par Manuel Rabaté, qui est directeur du Louvre à Abu Dhabi. On l'écoute.
Bonjour, Manuel Rabaté, directeur du Louvre à Abu Dhabi. Je suis HEC moi-même et très fier de vous saluer et de saluer
la naissance à venir de la Bourse du Commerce. Je vous parle en ce moment depuis le Louvre Abu Dhabi lui-même, nous sommes sous le dôme de Jean Nouvel. Ma question est très simple. Dans une offre culturelle extrêmement riche, notamment en art moderne et en art contemporain, comment est-ce que vous allez, dès le début, positionner de manière très différenciée la Bourse du Commerce ? J'ai une question qui est un petit peu plus conjoncturelle et qui est liée à la crise du Covid, qui touche le monde entier et notamment Paris. Comment voyez-vous les institutions culturelles et notamment les nouvelles institutions culturelles dans cette post-crise et dans la participation à la résilience de la société ? Je vous remercie et j'espère vous rendre visite dès que nous pourrons nous retrouver. À bientôt.
Sur la résilience, peut-être.
Et je vous attends à la Bourse de Commerce. Sur la résilience, il est évident que les institutions culturelles ont beaucoup souffert pendant cette période. Elles ont été privées de l'essentiel, c'est-à-dire de leur public. Vous savez, un musée ou un monument qui n'ont pas de visiteurs, qui n'ont pas de regard qui se pose sur eux, deviennent des objets morts. C'est la présence de public qui fait qu'un musée est un musée, et pas seulement la collection. En même temps, ces institutions ont su inventer et renouveler leur mode de communication avec le public de façon formidable, en utilisant notamment toutes les ressources d'Internet et du numérique, de façon à démultiplier leur présence auprès de publics parfois élargis. Mais l'un d'entre nous l'a dit au cours de cette émission, le contact avec les œuvres ne sera jamais remplacé par la possibilité d'accéder.
C'est un jeune étudiant qui
Un jeune étudiant disait ça, par la possibilité d'accéder à des reproductions ou à des simulations de ces œuvres.
Et en quelques mots, la distinction de l'offre Pinault, si je puis dire, sur le marché de l'art contemporain.
Écoutez, tout d'abord, nous avons souhaité justement nous inscrire dans ce paysage culturel parisien, dans ce paysage culturel français de façon respectueuse et équilibrée, avec beaucoup d'ambition, parce que nous souhaitons bien faire. En même temps, nous ne souhaitons pas marquer de la condescendance à l'égard des autres acteurs de la scène parisienne, notamment des acteurs publics. Nous sommes tout à fait disposés à collaborer avec eux, et sachez-le, quelques projets communs ont même été esquissés entre la collection Pinault et les musées nationaux ou les musées municipaux. Je crois que nous
sommes... Non, mais on va s'arrêter là parce qu'il ne faut pas parler des autres, il faut parler de vous. Deuxième question de Anna Kopilova.
Bonjour messieurs, je m'appelle Anna, je suis étudiante de master spécialisée médias, arts et création d'HEC Paris. Voici ma question à vous. Le projet d'ouverture de la Bourse de Commerce Pinault Collection a été conçu avant la Covid. Maintenant, avec tous les changements que la crise a amenés, le positionnement de la Bourse de Commerce a-t-il été repensé? Si oui, quels éléments ont été les plus touchés? Anticipez-vous des changements d'habitude de comportement majeurs qui pourraient affecter de manière significative les pratiques culturelles des gens?
Bon, tout d'abord, ce qui a changé, madame, c'est les modalités d'accueil du public. On ne les accueillera pas au cours des prochaines semaines et des prochains mois de la même façon qu'on les aurait accueillis en temps ordinaire, avant la crise du Covid. Pour ma part, j'espère d'ailleurs que cette pandémie ne sera pas une donnée permanente du fonctionnement de nos sociétés et qu'arrivera le jour où nous serons débarrassés de cette terrible chose. On pourra fonctionner normalement. Mais sachez-le aussi, la crise sanitaire a eu un impact sur la programmation. Il y a un moment où, il y a un an, François Pinault nous a dit qu'on ne pouvait pas programmer un accrochage pour l'ouverture de la même façon qu'avant la crise sanitaire.
Oui, il y a des œuvres qu'on peut pas, qui seraient mal reçues aujourd'hui, vous voulez
dire? Non, mais
dire,
surtout, il fallait plus de gravité. Oui, il fallait plus de gravité, peut-être moins de superficialité, moins de joliesse, moins de choses plaisantes ou de choses surprenantes ou drôles, plus de choses graves. C'est la raison pour laquelle il a souhaité que l'accrochage soit tout entier consacré à la figure humaine, au regard, à la présence des êtres humains dans l'art d'aujourd'hui.
Troisième question, Jean-Jacques Ayagon, question de Tessa Massia.
Bonjour à tous, je suis Tessa Massia, HEC Mac 2020. Ma question est la suivante. Dans quelle mesure la période du Covid a-t-elle fait émerger de nouvelles solutions créatives, aussi bien en termes de médiation qu'en termes de gestion des publics ou même de conception des expositions? Merci.
Oui, vous faites bien d'évoquer la question de la médiation. En effet, François Pinault a souhaité qu'on apporte à la médiation dans les salles du musée une attention toute particulière. Il a également souhaité...
Ça veut dire quoi, la médiation ?
La médiation, c'est-à-dire qu'il y ait des gens présents pour prendre les gens en charge, s'ils le souhaitent. Naturellement, il ne s'agit pas d'imposer des discours à des gens qui n'en auraient pas envie, mais il faut permettre à chaque personne qui est dans une salle d'un musée, ce musée-là plus particulièrement, qui s'estimerait être déconcertée par une œuvre, ne pas la comprendre. Il faut mettre à sa disposition un médiateur qui pourra lui apporter des réponses, sinon définitives, en tout cas des éléments de réponse, de façon à satisfaire son questionnement ou son inquiétude.
Plus de gardien de musée assis.
Ou sa perplexité. des femmes et des hommes qui sont là pour accompagner les visiteurs quand ils le souhaitent. Nous avons également, de ce fait, accordé beaucoup plus d'importance qu'avant la crise à nos activités en ligne. Et nous avons d'ailleurs mis en ligne, il y a quelques jours, le site de Pinot Collection. Je vous invite à le consulter, à le regarder. Vous le verrez, il est tout particulièrement riche, tout particulièrement plaisant également à utiliser.
Alors Jean-Jacques Aillegon, nous allons voir maintenant une question d'un producteur et auteur audiovisuel, HEC également, Laurence Torch.
Bonjour à tous, je suis Laurence Torch, HEC, promotion 85. Que faudrait-il pour que la France retrouve une place majeure dans l'art contemporain mondial ? Merci beaucoup pour votre réponse.
Écoutez, monsieur, vous le savez, à certains moments de notre histoire, la France a dominé le marché ou la scène internationale de l'art. À l'époque du cubisme, à l'époque du surréalisme, jusqu'à l'après-guerre, la France a vraiment été dominante. Et puis nous avons dû apprendre à vivre dans un monde plus multipolaire.
C'est ce qu'on essaie d'apprendre aujourd'hui.
L'Asie maintenant, le Golfe, etc. Il y a des créateurs partout et il faut prendre en compte cette mondialisation de la scène artistique, de la scène internationale. Mais pour autant, ne pas renoncer à ce que la France et l'Europe, de façon plus large, y occupent leur place. C'est la raison pour laquelle l'ouverture d'un musée, d'un nouveau musée à Paris, est un enjeu aussi important, parce qu'il permettra en effet non seulement de porter la scène artistique internationale à la connaissance du public, mais également permettra aux artistes français qui y sont présentés d'acquérir une audience internationale plus large.
C'est un vrai événement, un événement culturel, mais pas seulement pour la place parisienne. Cinquième question, elle est posée par Clara Schwartz.
Bonjour Monsieur Aillegon, je suis Clara Schwartz, diplômée d'HEC en 2018 du Master Média, Arts et Création. Aujourd'hui, je travaille à Paris Musée. Selon vous, quel sera l'impact de la crise économique et sanitaire sur le mécénat culturel ? Les mécènes et fondations n'auront-ils pas tendance à privilégier des projets liés à la santé ou sociaux et délaisser ainsi la culture ? Je vous remercie.
Madame, votre sujet favori, le mécénat.
Oui, mais enfin, c'est en même temps, le mécénat est un acte de libre disposition, hein, d'une générosité qu'on veut consentir à une cause d'intérêt général. Donc on ne peut pas ordonner aux mécènes, particuliers ou entreprises d'ailleurs, mécaniquement de porter leur générosité vers telle ou telle cause d'intérêt général. C'est vrai qu'en période de difficultés sanitaires, qu'en période de pandémie, les mécènes peuvent être tentés d'orienter leurs dons plus facilement vers la santé, vers la solidarité également. Mais pour ma part, j'ai bon espoir que très rapidement, le désir de culture étant d'une telle force, les mécènes se tourneront à nouveau et de façon constante, de façon large, vers de grands projets culturels. Je ne désespère pas de la capacité des mécènes à soutenir des projets culturels,
alors, comme
ils l'ont fait pour Notre-Dame.
Et justement, à Notre-Dame, vous vous souvenez qu'il y avait eu ce grand débat sur la défiscalisation. Vous êtes d'ailleurs à l'origine de cette loi qui l'a permis. Qu'est-ce que vous pensez de cette remarque, cette rébellion même de certains donateurs qui disent « moi je donne ». Mais sans défiscaliser. Vous trouvez que c'est bien, vous qui avez justement essayé d'avoir tout l'inverse ?
Organiser.
Oui, écoutez, d'ailleurs, à mes yeux, le mécénat ne permet pas une défiscalisation. Il permet l'affectation d'une partie de l'impôt qu'on doit à la nation à une cause qu'on a choisie.
C'est la même chose. C'est la même chose.
Mais,
vous jouez sur les mots.
Mais il y a des défiscalisations qui sont plus ou moins intéressées. Les défiscalisations dans le domaine de l'immobilier vous permettent à la fin de sortir avec un immobilier.
Mais pourquoi certains cherchent à sortir de ce mécanisme, notamment François Pinault ?
Tout simplement parce que, vous le savez, dès le lendemain de l'annonce par François Pinault d'abord et ensuite par d'autres d'un don important pour la restauration de Notre-Dame. Il y a eu, c'est l'un des mauvais penchants de notre pays, toute une polémique sur le caractère éventuellement intéressé de cette générosité. Et un certain nombre de donateurs, pour couper court à toute polémique, ont préféré annoncer qu'ils renonçaient à tout cadeau fiscal ou à tout aménagement fiscal à la suite de leur don, de façon à bien souligner le caractère totalement désintéressé de leur démarche.
Alors Jean-Jacques Ayogon, une nouvelle question de Valérie Bobo.
Bonjour, Valérie Bobo, fondatrice de l'agence Mona Lisa Factory. J'accompagne des entreprises dans leurs innovations et leurs transformations avec des artistes, ce qui peut prendre la forme de résidence d'artiste. Nous nous rappelons tous de votre loi de 2003 qui a donné un formidable élan au secteur culturel en rapprochant partenaires privés et monde artistique. Alors que vous exprimiez cet été sur la nécessité d'un New Deal artistique, vous vous êtes prononcé pour l'invention de nouveaux modèles au-delà du mécénat. Alors pourriez-vous nous préciser ces nouveaux modèles ? Et en particulier, quel rôle les entreprises pourraient-elles jouer ? Merci.
Précisez donc votre pensée, Jean-Jacques Ayagon.
Ma pensée, je veux même vous dire ma philosophie. Pour ma part, je pense naturellement que dans nos sociétés occidentales, démocratiques, les collectivités publiques, l'État, les collectivités locales ont un rôle important à jouer. Mais je pense aussi que ce rôle ne doit pas être un rôle exclusif. Je crois beaucoup à la qualité, à la capacité de la société, des particuliers, des entreprises notamment, à prendre en charge l'intérêt général de façon pleinement responsable. C'était l'esprit même de la loi de 2003 que de reconnaître cette capacité de tous à participer au développement de l'intérêt général. Et pour ma part, je souhaite qu'au cours des prochaines années, surtout après l'épreuve sanitaire que nous avons subie, cette capacité de tous à s'intéresser à ce qui est utile à tous soit renforcée, soutenue et se développe.
Autre question de quelqu'un du reste dont le patronyme est un nom connu dans le milieu de l'art, de Selvan Morandet du Ménil.
Bonjour Monsieur le Ministre, merci de donner l'opportunité de cet échange. Je suis Selvan Morandet du Ménil, directeur général de l'Association internationale des grands magasins et également collectionneur et grand fan du Palazzo Grazzi. La vie culturelle est actuellement au point mort pour cause de pandémie. Vous avez déjà lancé un cri d'alarme en mai dernier en demandant un fonds commun d'intervention région-État. Mais cela vient se superposer à une situation qui était déjà compliquée auparavant, comme on a pu le voir avec les défauts d'entretien sur les cathédrales. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une sortie de crise se fasse à travers l'autonomisation accrue des monuments, comme on a pu le voir avec les musées sous votre mandat, ou des partenariats publics-privés allant plus en profondeur, voire même le transfert de responsabilité vers, par exemple, des fondations?
Il y a beaucoup de questions
Il y a beaucoup de questions. Tout d'abord, moi, je vous l'ai dit, je crois à cette collaboration entre l'action publique et les initiatives privées. Je ne suis pas de ceux qui appellent l'extinction de l'action de l'État, de l'action publique. Je crois qu'elle est fondamentale et qu'elle est nécessaire. Mais il faut qu'à côté de cette action, mille fleurs puissent s'épanouir. Et que l'État lui-même, d'ailleurs, invente les circonstances dans lesquelles cet épanouissement pourrait se développer de la façon la plus harmonieuse. Parce qu'en effet, l'objectif, ça doit être l'intérêt général. C'est qu'il y ait plus d'art, plus de culture, plus de solidarité, plus de respect de l'environnement, plus de sport, etc. etc. L'intérêt général, c'est un très très vaste territoire et chacun doit pouvoir y prendre sa place.
Mille fleurs et 10 000 tableaux, peut-on dire. En tout cas, bon. Une question de Thomas Paris.
Bonjour Monsieur le Ministre, je m'appelle Thomas Paris et je dirige le master d'HEC MAC, Média Art Création, qui prépare des jeunes à des carrières dans tous les domaines de la culture. Vous incarnez par votre parcours beaucoup de ce en quoi nous croyons profondément. La passion, l'engagement pour la culture dans ses différentes formes, dans une approche la plus ouverte possible quant aux modalités d'action. La crise actuelle va sans doute amener des mutations profondes pour la culture, dans ses formes d'accès, ses modèles économiques, sa place dans la société et dans les politiques publiques. Dans ce contexte et au vu de votre expérience, quelle est, selon vous, la position la plus utile pour les jeunes qui souhaitent s'engager ? Doivent-ils aller plutôt dans le public, à l'échelon national ou territorial ? Doivent-ils aller vers le privé ? Où est-ce que les formes d'action les plus pertinentes ou les plus utiles seront plutôt vers l'entrepreneuriat ou encore d'autres formes ?
Écoutez, monsieur, vous le savez, ma vie professionnelle s'est parfois déroulée dans le cadre de responsabilités publiques et parfois dans le cadre d'initiatives privées. Pour ma part, ce qui m'a toujours importé, c'est la qualité des projets mis en œuvre. Et donc, pour répondre à votre question, je souhaite que demain, le plus grand nombre de talents se dirigent vers le service public de la culture, celui de l'État, celui des collectivités locales, et que d'autres grands talents se dirigent vers des initiatives privées. On remarque d'ailleurs de plus en plus qu'il y a des ponts, des passerelles entre l'activité publique, l'activité privée, et on rencontre de grands talents qui passent successivement d'une activité, d'un type d'activité à l'autre. Il faut cesser d'ériger entre ces deux domaines de l'initiative des barrières qui seraient infranchissables. Je pense que la France, que l'Europe, que le monde ont besoin de tous les talents.
Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une sorte d'internationalisation des parcours. C'est-à-dire que, par exemple, c'est un étranger qui prend la direction de l'Opéra de Paris, à l'inverse, c'est des Français qui prennent la direction d'un musée américain. On voit qu'il y a vraiment maintenant un marché de l'art international, quel qu'il soit. Dernière question, Jean-Jacques Ayagon, c'est une question de Vincent Baudouin.
Bonjour, Jean-Jacques Ayagon, Vincent Baudouin à Paris. Tous les jours, nous découvrons des grands et nouveaux artistes chinois. Je pense par exemple à San Yu, dont les œuvres ont atteint jusqu'à 40 millions de dollars chez Christie's Maison Pinault récemment. La foire de Hong Kong Art Basel, le centre Pompidou à Shanghai West Bund ont ouvert et connaissent un grand succès. Pouvez-vous nous parler de l'ouverture du marché chinois, éventuellement de vos projets, et bon courage pour l'ouverture des collections à Paris. Merci, à bientôt.
Écoutez, merci pour vos vœux. Bon, la Chine est un grand pays. On n'a à l'apprendre à personne. C'est un grand pays d'une grande civilisation. C'est un pays également qui, désormais, se tourne vers la modernité. Vers l'expression contemporaine de l'expression artistique avec beaucoup d'enthousiasme. Le marché chinois, c'est une réalité, mais je reviens vraiment à cette conviction très profonde qu'il ne faut surtout pas réduire l'approche qu'on a de l'art aux seules réalités du marché. La Chine est à mes yeux importante parce qu'il y a des artistes, il y a des créateurs, il y a des musées. Le public, les Chinois, les étrangers qui vont en Chine peuvent rencontrer des œuvres dans des musées privés ou publics. Cessons d'avoir les yeux fixés sur les seules performances d'un artiste sur le marché international. Ça devient même, à force, extrêmement malsain pour la considération que les gens portent à l'art. Que le Salvador Mundi vaille plusieurs centaines de millions de dollars, finalement, c'est pour moi une réalité accessoire. Ce qui compte, c'est la qualité de cette peinture.
Allez, on arrive au terme de cette émission. Les questions plus personnelles en termes de conclusion.
Alors, la question la plus personnelle vous concernant, c'est où est-ce que finalement on a le plus de pouvoir ? Comme ministre de la Culture, vous l'avez été à l'établissement public de Versailles ou maintenant dans le privé, mais est-ce tout à fait dans le privé à la tête de la Fondation Pinault ?
Écoutez, j'ai eu la chance d'aimer toutes mes missions, tous mes boulots. J'y ai pris à chaque fois beaucoup de plaisir.
Bon, mais sur le fond, allez.
Mais écoutez, j'ai été de la même façon satisfait et heureux dans chacune de mes responsabilités. D'ailleurs, si j'avais cessé de l'être, je les aurais quittées.
Mais vous n'avez pas plus de liberté maintenant avec François Pinault ?
Non, il y a entre François Pinault et moi vraiment une ancienne, désormais connivence, une grande amitié également, je peux le dire. Mais néanmoins, il est mon patron, c'est lui qui fait des choix, c'est lui qui arbitre. Et je respecte beaucoup finalement cette hiérarchie. Ce n'est pas parce que j'ai été ministre que je tente de me soustraire finalement à cette force de la responsabilité du collectionneur. Je la respecte parce que c'est la règle du jeu au départ. Dans les établissements publics, on est finalement assez libre parce que la tutelle de l'État ne s'exerce souvent que sur des petites choses. Elle est tatillonne sur les petites choses et négligente sur les grandes. Et donc finalement, on a beaucoup de liberté.
Alors, pour terminer ensemble ce moment formidable que l'on a passé, il faudrait peut-être revenir à l'art et à vous demander, vous, si vous deviez emporter une œuvre avec vous, laquelle emporteriez-vous ? Mais avec deux questions, dans la collection Pinault et dans la collection du Monde.
Écoutez, dans la collection Pinault, j'emporterai peut-être l'une des œuvres qui est actuellement présentée. Si je veux emporter une œuvre actuellement présentée dans l'exposition de la Bourse de Commerce, j'emporterai une petite œuvre de Myriam Kahn, une jeune artiste de plus de 70 ans qui vit en Suisse, une artiste tout à fait remarquable, hein, qui est dans la grande tradition des expressionnismes européens.
Où est-ce qu'elle se trouve à la Bourse du Commerce? Là, il faut.
Elle se trouve au deuxième étage.
Deuxième étage.
Et comme le bâtiment est rond, il suffit de d'avancer, on finira toujours par tomber sur.
Et la deuxième rapidement.
Oh, ben, il y a une toute petite œuvre du musée de Dijon que j'aime beaucoup. C'est une œuvre de Konrad Witz, une œuvre comme ça qui est à la charnière du 15e et du 16e siècle. C'est la Sibylle de Tibur annonçant à l'empereur Auguste la naissance de Jésus.
Alors, Jean-Jacques Ayagron, merci.
J'ai juste une toute petite question, tant pis, on va. Votre prochain défi, c'est quoi maintenant? Vous êtes au chômage?
Écoutez, je ne suis pas un perdreau de l'année, vous le savez, et donc il va peut-être falloir que j'envisage un jour de me consacrer à mon salut éternel, puisque je parlais de la Sibylle de Tibur, et puis que je m'occupe un peu plus de mes hortensias en Bretagne. Mais vous savez, je suis un travailleur impénitent, et donc si quelques missions se présentaient, je ne sais pas si je réussirai à m'en échapper totalement. J'ai par ailleurs accepté un mandat électif en Bretagne. Je suis conseiller municipal de ma commune.
C'est très important.
Et par ailleurs conseiller communautaire de Morlaix. Donc j'essaie de m'occuper de ces deux collectivités.
Alors merci aux travailleurs impénitents d'avoir passé une heure en notre compagnie. Et puis nous vous retrouverons le mois prochain après cet entretien de Jean-Jacques Ayagron avec d'autres entretiens passionnants avec Edwige.
Merci beaucoup. Bonne ouverture avec un S.
L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.